En ce lundi 6 juillet, je veux particulièrement porter notre réflexion et les leçons que l'on doit en tirer aujourd'hui sur les relations franco-américaines et le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, que l'on doit aussi appeler la Révolution américaine. La presse française, dans la perception des uns et des autres ici, on voit les États-Unis n'existeraient pas sans la France. L'amour vache entre la France et les États-Unis. Toute une série de jugements qui passent à côté de la réalité. La réalité de la Révolution américaine, elle, exposée, présentée par nos amis américains à une conférence, une réunion qui s'est tenue à Philadelphie, hier dimanche, et à laquelle j'ai participé. Cette réunion avait pour objet de lancer la campagne présidentielle de Diane Serre, qui se présente au nom de cet aspect révolutionnaire de l'indépendance américaine, des conceptions des pères fondateurs, et non des errements des États-Unis, des dévoiements des États-Unis depuis. Un des orateurs a dit d'ailleurs que les États-Unis étaient devenus l'Empire britannique du XXIe siècle. Alors, il faut rappeler, et c'était l'objet de ce que j'ai commenté là-bas, il faut rappeler que la Révolution américaine a été une révolution universelle. D'abord, par son intention. Son intention, c'est que pour la première fois, a créé un pays, une république, était créée toute pièce, basée sur le consentement des administrés, des citoyens. C'est cela qui était tout à fait révolutionnaire et qui était évidemment contre la conception britannique de l'impérialisme, du colonialisme, de la domination, et de la domination par la force. Alors, cette révolution américaine, l'indépendance des États-Unis, a été soutenue par un parti américain en Europe et même dans le monde. Le caractère qui n'est pas simplement américain de la Révolution américaine, mais qui est international. Les États-Unis, ainsi, ne sont pas un pays anglo-saxon, mais un melting pot de gens venus du monde pour trouver une vie meilleure et pour participer aux institutions de la République. La première République, évidemment, fondée sur le consentement des citoyens, selon des idées que l'on peut, dont on peut trouver l'origine jusque chez Nicolas de Cuse, comme l'a exposé Elgazep Larouche, sur la nécessité d'un consentement des citoyens, des sujets, disait-on à l'époque, mais aujourd'hui c'est les citoyens, ce consentement déterminant une harmonie et une cohésion nationale pour définir en commun un projet, un dessein. Alors, le soutien est venu en particulier de l'Europe et tout particulièrement de la France de Louis XVI et de l'Espagne de Carlos III. Militairement, la bataille décisive, celle de Yorktown, a été gagnée par plus de Français participants que d'Américains. Il y avait environ 9000 soldats commandés par George Washington, 7000 soldats français ou participant à l'armée française commandée par le comte de Rochambeau, 3000 marins et soldats sur les bateaux de l'amiral de Grasse qui, dans la baie de Chesapeake, repoussèrent les tentatives britanniques de venir au secours de Cornwallis et de son armée à Yorktown. Donc, on peut dire que la victoire de Yorktown était une victoire commune de tous les républicains ou d'esprit républicain du monde. Il faut dire que le général von Steuben, militairement, von Steuben, qui est prussien, a organisé d'abord l'entraînement crucial des insurgentes à Valley Forge, et ces insurgentes, comme le disait gouverneur Morris, un des, disons, plus déterminés des républicains américains, étaient dans un vraiment très très mauvais état. Donc, c'est cette influence de connaissances acquises en Europe qui a permis aux soldats américains, en partie, de vaincre les Britanniques. Financièrement, sont les Bourbons de France, donc, et ceux d'Espagne, qui fournirent des millions de livres nécessaires, c'est-à-dire l'argent du crédit, des armes, des munitions et des ingénieurs du génie militaire. En France, Beaumarchais créa cette compagnie commerciale française factice sous le nom de Rodrigue Hortalez et compagnie, qui permit de faire partir des navires des ports français pour arriver aux Caraïbes puis aux États-Unis. Donc soutien militaire, soutien financier, et puis il y a ce parti, ce soutien intellectuel, ce parti américain à l'époque. Benjamin Franklin l'organisa lorsqu'il vint en Europe, il l'organisa de telle sorte que ce parti a fait pencher la balance en faveur de la révolution américaine, alors que les monarques eux-mêmes, Carlos III ou Louis XVI, hésitaient à certains moments parce qu'ils craignaient que leur pays respectif soit contaminé par les idées américaines. Évidemment, dans ce groupe, on voit en Espagne, en particulier le banquier français d'origine basque, Francisco Cabarrús, qui organisa une banque de San Carlos basée sur le crédit public, rassemblant des fonds privés, des capitaux privés, mais sous le crédit public, et organisée comme une institution publique qui inspira ensuite la Banque nationale américaine d'Hamilton. Alors, dans ce groupe, on trouvait des poètes, des artistes, des philosophes, des hommes politiques. On doit citer Mozart, qui attaque dans Don Juan le caractère prédateur et violent des féodaux, de la façon féodale de penser. Goya, qui fut lui-même un actionnaire de la Banque de San Carlos de Cabarrús, tout ce parti qui, en France en particulier, était représenté par Lafayette, comme on le sait, mais surtout par Lazare Carnot, comme on le sait généralement pas, qui rencontra Franklin et qui soutint la révolution américaine. Alors, il faut bien voir que un certain nombre de citoyens américains ont été faits citoyens français, comme Thomas Paine, par exemple, comme Washington lui-même et un certain nombre d'autres, en même temps que Schiller était fait citoyen français et l'anglais J.B. Presley. Donc, il y avait ce parti américain, ce soutien aux États-Unis, et les États-Unis comme un pays participant à un projet universel. Jusqu'en Inde, pourrait-on dire, parce que Tipu Sahib, qui était le sultan de Mysore, combattit la Compagnie des Indes orientales britanniques, qui la haïssait, ainsi que son père, qui aussi la haïssait, et leur combat était jusqu'en Europe, puisqu'ils envoyèrent une délégation à Louis XVI pour organiser une alliance avec la France, et aussi il y avait des révolutionnaires français qui se trouvaient dans la capitale de Mysore. Donc, voilà, c'était une révolution universelle. Et plus tard, en Inde en particulier, plusieurs intellectuels, plusieurs penseurs s'inspirèrent de la lutte anticoloniale de la révolution américaine et de la volonté française de défendre sa souveraineté contre les Britanniques. Bref, cette révolution américaine était beaucoup plus universelle que je pensais moi-même avant de connaître mes amis américains et aujourd'hui de voir ce qu'ils ont organisé pour redonner cette impulsion à l'image du XXIe siècle, alors qu'elle était trahie par, disons, les présidents américains, au moins depuis l'assassinat de Kennedy, et puis je dirais aussi la mort de Roosevelt, qui eux s'inscrivaient dans ce courant américain réel, a été trahi de telle façon que l'influence britannique a gagné les États-Unis et aujourd'hui, dans sa mutation, elle représente un parti qui est techno-militaro-financier, bien plus que le complexe militaro-industriel dénoncé par Eisenhower en son temps. C'est le lien entre les sociétés financières américaines et toute l'industrie de la défense pour gouverner par la peur et réussir à imposer sa loi au monde. C'est Trump voulant la grande Amérique du Groenland à la Terre de Feu. Donc, il y a cette trahison avec son extension militaire. Alors, l'extension militaire, on la voit aujourd'hui en Europe. Une sorte de cordon se trace autour de la Russie. À la mi-juin, le Parlement de Finlande a voté pour la possibilité d'avoir des armes nucléaires dans son pays. En Lituanie, le président Gitanas Nausėda a dit qu'ils sont favorables à que des armes nucléaires soient installées en Lituanie. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a exprimé son respect pour la décision lituanienne. Et il a dit que des forces armées allemandes allaient s'établir en Lituanie à la fin 2027. En Pologne, on parle d'une alliance basée sur le fait que la Pologne se joindrait au programme de l'OTAN sur les armes nucléaires. Donc on voit des choses qui sont absolument des lignes rouges par rapport à la Russie, sont extrêmement dangereuses. L'alliance tracée autour de la Russie nucléaire menace un pays nucléaire. Cela veut dire, en clair, une menace de guerre et de guerre mondiale, si l'on continue dans cette direction. Le pape, lui, a refusé de se rendre pour le 4 juillet aux célébrations aux États-Unis. On le comprend parce que ces célébrations ont été faites tout à fait dans un esprit opposé à la vraie Amérique. On a vu Trump d'abord, précédant cela, rencontrer Charles III et dire que ce sont les idées de la réflexion britannique qui ont prévalu aux États-Unis. Alors, tout le monde, si vous consultez ChatGPT, c'est vrai, c'est Locke, c'est Newton, c'est ce qui a inspiré la révolution américaine. C'est écrit, vous pouvez le vérifier sur ChatGPT. La réalité est opposée, bien sûr. Locke, c'est la vie, la liberté et la propriété. Alors que dans la déclaration d'indépendance américaine, c'est la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Cette poursuite du bonheur n'est pas le bonheur de s'éclater, d'avoir du plaisir et de céder à ses pulsions. C'est le bonheur de découvrir les lois de l'univers et les appliquer pour le bien commun de ses citoyens et aussi du monde. Donc, je voulais vous dire tout cela parce que c'est très important de réfléchir en ce moment de l'histoire à ce qui se passe aux États-Unis qui sera déterminant pour le monde. Les États-Unis ont la devise, le dollar, qui a encore son privilège exorbitant. Les États-Unis ont un investissement dans le militaire associé à l'intelligence artificielle. Et surtout, derrière cette politique américaine, il y a ces seigneurs de la guerre et de la finance de Silicon Valley. Peter Thiel vient de dire que toute la politique du pape Léon XIV est communiste parce qu'il favorise la Chine en attaquant l'intelligence artificielle aux États-Unis. Et Trump lui-même, dans un discours, le mont Rushmore, c'est déjà ridicule le mont Rushmore parce que c'était un site indien dans lequel on a mis les têtes de différents dirigeants américains. Trump a déclaré que c'était les communistes qui menaçaient les États-Unis. Et en effet, il y a eu beaucoup de victoires électorales au Colorado, à New York et ailleurs, de candidats démocrates radicaux. Alors il faut être clair aussi sur cette question. Évidemment qu'ils ne sont pas communistes. Et Trump évoque cela comme Peter Thiel. On voit la continuité et ce que partage cette mafia de Silicon Valley et de Wall Street et Trump qu'ils agitent sur la scène. Eh bien, on voit aussi vers ce quoi elle se dirige. Et c'est cette politique internationale de grand danger dans laquelle on se trouve. Certes, Trump et Poutine viennent se parler pendant 90 minutes et ce qu'a dit Poutine est très intéressant. Il a dit, et j'ai ici les citations, Poutine a dit que dans son message à Trump, qu'il félicite les États-Unis pour avoir été la République et pour son histoire et que la Russie sous les tsars l'a soutenue. Il a soutenu la lutte des insurgents américains pour la liberté contre la domination britannique. Donc on voit de plus en plus en Russie Cette attaque contre la domination britannique, la possibilité d'établir un lien avec Trump, mais aussi, en même temps, le rejet absolu des Européens. Et là, évidemment, les Européens s'y prêtent, puisqu'ils appellent à l'armement, ils appellent à une politique agressive vis-à-vis de la Russie et à soutenir jusqu'au bout l'Ukraine. Alors c'est là qu'il y a un danger. Je crois que le danger est plus grand aujourd'hui en Ukraine qu'en Iran, bien qu'en Iran, les choses ne soient pas du tout apaisées. Et les Américains ont continué à bombarder l'Iran et les Iraniens proclament leur droit à contrôler le détroit d'Ormuz. Donc voilà la situation internationale et voilà cette chance que représente dans l'histoire la vision de ce que les Américains appellent les pères fondateurs. Voilà la différence entre Washington et Trump. Washington, au bout de deux présidences, se retire. Il refuse que son visage lui-même soit inscrit dans quelque monument que ce soit. Trump veut s'inscrire lui partout. Il veut apparaître partout. Il veut être une référence partout. Il organise à la Maison Blanche cette représentation terrifiante quelque part, ridicule et terrifiante des arts martiaux mixtes. Et en même temps, il proclame que l'Amérique, c'est la force. Et en écho, les gens de Palantir, qui contrôlent les données, non seulement aux États-Unis, mais dans la plupart des pays du monde, sauf la Russie et la Chine, Palantir déclare qu'il faut dominer, régner par la peur, « might is right », comme on dit là-bas. Alors, voilà la situation. De ce point de vue, il est absolument fondamental de lire et relire l'encyclique Magnifica Humanitas du pape, qui est en même temps une réflexion sur la doctrine sociale de l'Église, destination universelle des biens, bien commun, participation, et cette participation des citoyens au pouvoir dans la continuité du consentement des citoyens sur lequel doit être basé tout gouvernement exprimé par Nicolas de Cuse et les humanistes français et italiens de la Renaissance. Et la dernière valeur, le principe de subsidiarité. Alors, souvent, mal compris, il faut faire en bas tout ce qui peut être fait en bas. Non, ce n'est pas ce que dit le principe de subsidiarité. Il dit qu'il faut faire en bas selon ses possibilités. Et le faire en développant là, par son action, l'idée de le faire plus haut. Et de plus haut, évidemment, être en rapport avec ceux qui réfléchissent à ce niveau et qui réfléchissent au destin des nations et du monde. Le pape, de ce point de vue, s'est trouvé le 4 juillet, non aux États-Unis, où il a été invité par J.D. Vance et Trump. Il a été à Lampedusa. Et à Lampedusa, c'est l'île au large de l'Italie, plus proche d'ailleurs de la Tunisie, où viennent se réfugier tous les migrants. Et sur cette question, le pape a été très clair. Il y a le respect des migrants et la nécessité de les accueillir en tant qu'êtres humains, mais aussi de faire en sorte qu'ils n'aient pas à migrer par nécessité, pour fuir leur pays en guerre ou pour fuir leur pays en crise. Et il y a une nécessité de développer ces pays-là. La même chose qu'avait dit De Gaulle, le développement de tous les pays qui le demandent, pour qu'ils puissent rester chez eux et enrichir leur pays. Et d'autre part, les accueillir avec la détermination généreuse de les accueillir, mais aussi pour eux, de reconnaître les valeurs, l'histoire, les principes du pays où ils viennent, où ils ont migré. Donc, le pape définit ainsi, par-delà les partis politiques actuels, par-delà la tolérance absolue ou le châtiment général, définit une politique de respect de la personne humaine, qui est bien plus qu'un individu humain. La personne humaine, c'est cette porteuse d'idées d'avenir et porteuse d'un sens de ce que les générations futures doivent faire. Et je dois dire que, ou ce qui doit être apporté plutôt aux générations futures, je dois dire que c'est quelque chose qui va tout à fait dans notre histoire, l'histoire de notre organisation internationale, l'Institut Schiller, et de Solidarité et Progrès. Le pape a reçu, de la part du National Constitutional Center, à Philadelphie aussi, à Philadelphie où étaient nos amis américains, où dimanche, Ils ont organisé leur conférence là à Philadelphie. Cette société a donné au pape son médaille de la liberté. Le pape, d'ailleurs, la porte autour du cou. Et le pape a déclaré qu'il fallait retrouver les idéaux fondateurs des États-Unis. Et s'est adressé directement à Trump. Et il faut souligner, a-t-il dit, la grandeur de l'homme précède la création de l'État. Donc c'est la personne humaine, l'idée dont je parlais tout à l'heure. Et que ce qui est à l'échelle du monde, que ses valeurs soient respectées, qu'on obéisse à ses principes. Alors, à Lampedusa, le pape a aussi déclaré, dans un message très clair adressé à Trump, que les politiques migratoires étaient des politiques qui peuvent enrichir un pays si elles sont traitées comme elles le doivent. Alors, pour conclure, je dirais que si je pense à cette histoire, qui est notre histoire, je pense en France à ceux qui, dans la Révolution, représentaient le parti, je dirais, américain et aussi le parti de la création intellectuelle. C'est Carnot, c'est Chaptal, c'est Monge, c'est tous ceux auxquels nous avons longuement réfléchi à leur œuvre, à ce qu'ils ont accompli et qui ont été généralement trahi à la fois par, je dirais, des forces que l'on peut qualifier de droite, qui voulaient conserver le système et le régime. C'est Joseph de Maistre expliquant qu'il fallait un bourreau pour maintenir l'ordre dans un pays. Et c'est de l'autre aspect, toute une réaction gauchiste, entre guillemets, provoquée. Les gens que Schiller disait cédaient à leur instinct et que cet instinct était encouragé. À l'opposé de cela, il y a toute une politique qui est la véritable politique d'une alliance franco-américaine qui devrait donner l'exemple au monde. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, il s'agit pour nous de changer cela et de rétablir cet esprit et en même temps l'enrichir par tout ce qui est produit depuis. Et c'était l'idée du général de Gaulle disant que on ne devait pas obéir à ceux avec lesquels on était allié, avec ses amis, mais non pas non plus se soumettre aux autres. Que l'indépendance de la France et la souveraineté, c'était cela. Et rappelons que Washington, dans sa farouelle adresse, avait non seulement déclaré qu'il condamnait l'esprit de parti, mais il condamnait aussi les impostures d'un prétendu patriotisme. Donc c'est important pour une réflexion sur la France aujourd'hui, de ce qu'est un vrai patriotisme. Je voulais finir sur cela en disant aussi un mot que, aux États-Unis, dans leur histoire, il y a bien eu le massacre des populations indigènes, des Indiens, et l'esclavage. Mais que, dans leur histoire, c'était la part qui restait de cette vision coloniale britannique. Car un des héros de cette période, Frederick Douglass, qui était un ancien esclave, l'a dit très clairement en disant que pour lui, c'était une révolution qui devait s'adresser à tous dans tous les pays du monde. Et Ulysses Grant, qui était le général de Lincoln, a soutenu le 15e amendement de la Constitution américaine, étendant le droit de vote à tous les citoyens masculins, sans condition, sans distinction de race, de couleur ou de condition antérieure de servitude. Et c'est cela qui a été trahi, bien sûr, par l'esclavage aux États-Unis. Et c'est cette grande lutte au sein même de la Révolution américaine entre ceux qui défendaient les États et qui avaient des esclaves, les Madison et les Jefferson, contre ceux qui appelaient à la libération de tous, qui sont les gouverneurs Morris, qui sont Lafayette, qui était plus courageux aux États-Unis qu'en France, et tous ceux qui défendaient le véritable principe de la Révolution américaine. Donc, aujourd'hui, où se joue le sort du monde ? Les États-Unis étant cette grande puissance, je le répète, avec le dollar, avec l'armée, avec toute l'intelligence artificielle, ce qui se passera aux États-Unis est essentiel pour nous. C'est pour ça, ce n'est pas intervenir dans les affaires intérieures américaines, de dire il faut voter Diane Serre, et il faut voter pour quelque chose d'autre que ceux qui sont au pouvoir actuellement là-bas. C'est faire, comme le disait Benjamin Franklin en son temps, c'est faire en sorte qu'on intervienne pour les forces de développement, de libération et de réelle citoyenneté aux États-Unis aujourd'hui. C'est ce que nous faisons, et c'est pourquoi je suis intervenu dans cette réunion de cette, je dirais, grosse poignée de citoyens américains qui veulent changer les choses, dans un pays où l'on rejette Trump. Il y a eu toute une série d'élections à New York, au Colorado, comme je l'ai dit, et en Missouri aussi, je crois, dans d'autres États, où des candidats anti-Trump ont été élus, et anti-démocrates, anti le parti démocrate existant. Ils sont des démocrates, mais ils sont contre les démocrates du parti existant. Vous savez, ce qui est semblable entre Trump et les démocrates dévoyés, c'est un État basé sur les conflits d'intérêts et la spéculation. Comme Nancy Pelosi et ses amis spéculaient sur les marchés financiers, pratiquaient le conflit d'intérêts et devenaient plusieurs fois millionnaires, les amis de Trump, plusieurs fois milliardaires, ont aggravé encore ce processus. Donc c'est tout cela qui doit être rejeté, ce que de Gaulle appelait le monde de l'argent, et qui aujourd'hui est devenu un monde de l'argent qui joue sur la peur et sur la guerre. Et c'est ça que nous voulons sortir, et c'est notre combat, ici comme aux États-Unis. C'est ce que je voulais vous dire ce matin.